Doha, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 15 août 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sebudia. Tout d'abord, les titres. 49 militaires ivoiriens accusés d'être des mercenaires ont été inculpés et écroués au Mali. Au Burkina Faso, des ONG dénoncent des exécutions extrajudiciaires de plus de 40 personnes, démenties du gouvernement. À RDC, retour au calme à Butembo, après près d'une semaine d'altercation entre de jeunes manifestants et des éléments des forces de sécurité. Au Kenya, duel serré entre Odinga et Ruto pour la présidence, multiplication des appels à l'unité. En Israël, un suspect arrêté après une attaque contre un bus à Jérusalem, 8 blessés. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les 49 soldats ivoiriens détenus depuis plus d'un mois à Bamako et accusés d'être des mercenaires ont été inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et écroués. Le point avec Abdourahmane Dia.
Plusieurs sources judiciaires ont confirmé l'information à l'AFP. Les 49 militaires sont effectivement inculpés et mis sous mandat de dépôt pour atteinte à la sûreté de l'État et d'autres motifs, a déclaré un responsable du ministère de la Justice. Abidjan assure que ces soldats étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali et exige leur libération. La négociation semblait pour l'instant la voie privilégiée pour obtenir la libération de ces militaires arrêtés le 10 juillet à leur arrivée à l'aéroport de Bamako. Le Togo joue le rôle de médiateur, mais de premières négociations le 28 juillet à Lomé n'ont pas permis d'enregistrer de progrès. Les discussions pourtant avancées ont buté sur certains points, ce qui peut expliquer ce retour judiciaire en force dans le dossier, explique une source proche des discussions. La justice va continuer son travail, mais les négociations vont continuer aussi, selon la même source.
Par ailleurs, et là on va au Burkina Faso, deux organisations de défense des droits humains ont dénoncé les exécutions sommaires et extrajudiciaires de plus de 40 personnes perpétrées début août à Tougouri, dans le nord du pays. Michel Joseph.
Dans deux communiqués publiés dimanche, les deux ONG, Collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés et Observatoire de la dignité humaine, ont impliqué les forces armées burkinabées. Le gouvernement réfute et condamne, avec la dernière énergie, ces allégations qui portent le discrédit sur l'armée, qui reste républicaine et résolument engagée dans la lutte contre le terrorisme et pour garantir la quiétude et la sécurité des populations, a déclaré à l'AFP son porte-parole Lionel Bilgo. Il a simultanément indiqué que l'armée avait engagé une enquête pour vérifier la véracité et l'exactitude de ces allégations. Selon l'Observatoire de la dignité humaine, citant des sources locales, la quasi-totalité des victimes seraient des peuls, dont des femmes et des enfants. Certaines victimes ont été arrêtées au marché de Tougouri et d'autres à domicile, précise-t-elle.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, la ville de Butembo, dans la province du Nord Kivu, a retrouvé le calme après près d'une semaine d'altercation entre de jeunes manifestants et des éléments des forces de sécurité. Les manifestants protestaient contre le manque de sécurité après l'attaque de la prison de la ville. Notre correspondant Zanem Neti Zaidi pour plus de détails.
Dans la ville de Butembo, pendant plusieurs jours, les activités ont été paralysées à cause des manifestations. Les portes des magasins, marchés, supermarchés et celles des institutions publiques et privées sont restées longtemps fermées depuis plusieurs jours. Les manifestants protestaient contre ce qu'ils décrivent comme la léthargie des autorités à sécuriser la ville après qu'une attaque d'hommes armés contre la prison centrale de Butembo a provoqué l'évasion de plus de 800 prisonniers. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, a publié samedi soir un communiqué interdisant toute manifestation dans la ville de Butembo. Selon les autorités, 5 policiers ont été tués, 3 jeeps de la police ont été brûlés et 8 armes ont été récupérées par les manifestants. Ce dimanche, des éléments de la police et de l'armée ont été renforcés dans la ville pour répondre à toute éventualité. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique.
Une peine de prison à perpétuité pour crime contre l'humanité a été requise contre 3 accusés par la CPS, Cour pénale spéciale, un tribunal hybride de magistrats locaux et internationaux en Centrafrique, créé en 2015 par le gouvernement sous le parrainage de l'ONU. Selon l'AFP, Issa Saleh Adoum, Ousmane Yaouba et Tahir Mahamat, membres des 3R, un des plus puissants groupes armés qui terrorisent les populations depuis des années, sont jugés à Bangui pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, accusés du massacre le 21 mai 2019 de 46 civils dans des villages du nord-ouest, Kundjili et Lemuna. Présidentiel au Kenya, les 2 favoris, William Ruto et Raila Odinga, sont toujours au coude à coude selon les résultats officiels provisoires de dimanche matin, portant sur près de la moitié des bureaux de vote. Le président, le vice-président Ruto, menait ce coude à coude avec 51,25% des voix contre 48,09% pour Raila Odinga, l'opposant historique. Les appels au calme et à l'unité se multiplient, Eric Manera Kidza.
L'attente se prolonge près d'une semaine après la présidentielle du 9 août et la population retient son souffle. Des appels au calme ont été lancés et l'ambiance à travers le pays est restée apaisée, loin des tensions et violences post-électorales passées, parfois sanglantes. L'évêque Washington Ogonyo Ngede, ami de longue date de la famille Odinga, a exhorté depuis Kisumu, fief de l'opposant situé dans l'ouest du pays, à dépasser les clivages. Les dirigeants vont et viennent, mais le Kenya vit pour toujours, a-t-il lancé, acclamé par les quelques 300 fidèles présents. Dans le diocèse d'Eldoret, bastion de Ruto, dans la vallée du Rift, l'évêque Dominique Kimengich a également indiqué prier pour la paix. Les gens ont exprimé leurs préférences, les hommes politiques doivent accepter la volonté du peuple, a-t-il estimé, avant une messe dans la paroisse d'Oyamumbi. En écho, secrétaire d'État américain Tony Blinken, samedi sur Twitter, une quinzaine d'ONG et de syndicats, dont Amnesty International, ont aussi appelé dimanche à la patience.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Salman Rushdie va un peu mieux selon ses proches 2 jours après que l'auteur des versets sataniques menacé de mort depuis 1989 par une fatwa de feu Ayatollah Khomeini de l'Iran a été poignardé au moins 10 fois par un Américain d'origine libanaise dans le nord des États-Unis. L'intellectuel britannique et américain de 75 ans n'est plus sous assistance respiratoire et la voie du rétablissement a commencé, s'est félicité son agent. La police israélienne a annoncé dimanche l'arrestation d'un suspect dans l'attaque à main armée d'un bus près de la vieille ville de Jérusalem qui a fait 8 blessés, dont 2 grièvement, et une femme enceinte. Parmi ses victimes, des Américains. La semaine dernière, l'armée israélienne a mené une opération préventive contre le djihad islamique dans la bande de Gaza, qui a répliqué avec des salves de roquettes contre Israël. Au moins 49 Palestiniens, dont des combattants du djihad islamique, mais aussi des civils et des enfants, ont péri lors de cette escalade militaire de 3 jours qui s'est soldée par une trêve le 7 août grâce à la médiation de l'Égypte. Une délégation du Congrès américain est arrivée dimanche à Taïwan, peu après de vastes manœuvres militaires chinoises autour de l'île, déclenchées par la visite de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre américaine des représentants. Cette visite de 5 personnes, qui n'était pas annoncée, doit durer jusqu'à lundi, selon l'Institut américain à Taïwan, l'ambassade de facto des États-Unis dans l'île. Pékin a réagi avec colère à cette visite également, et l'agence officielle Chine Nouvelle a publié un commentaire avec pour titre « Les politiciens américains devraient cesser de jouer avec le feu sur la question de Taïwan ». En bref, dans le reste de l'actualité, en Afghanistan, les talibans ont décrété ce lundi pour férié, jour férié pour célébrer le premier anniversaire de leur retour au pouvoir, une année marquée par une forte régression des droits des femmes et une profonde crise humanitaire. Des funérailles ont eu lieu dimanche soir dans deux églises du Caire pour les 41 victimes d'un incendie déclenché dans la matinée par un court-circuit au beau milieu d'une messe dans une église copte d'un quartier populaire de la capitale égyptienne. La Minute Éco, Nadine Talani.
Le Togo et le Japon ont conclu un accord de 1,75 milliard de francs CFA pour le secteur agricole en vue d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Togolais vulnérables. Tokyo aidera Lomé à faire face aux effets du changement climatique sur les productions de riz et aux perturbations économiques liées au COVID-19. Le Togo a déjà reçu du Japon 6 000 tonnes de riz d'une valeur de 3 milliards de francs CFA. En RDC, la province du Sud Kivu compte 3 blocs gaziers dans les eaux du lac Kivu et 2 blocs pétroliers à Uvira et à Baraka, a révélé le ministère des hydrocarbures de la province. L'exploitation de ces blocs devrait accroître l'économie, fournir de l'emploi aux jeunes et contribuer à la lutte contre le déboisement en fournissant du gaz aux ménages. Le projet réduira aussi les coûts de l'énergie et du pétrole lampant. Terminons par ces 5 importants groupes chinois cotés aux États-Unis qui annoncent leur retrait de la bourse de New York à cause des coûts liés aux cotations et au respect des obligations en matière d'audit. Une nouvelle loi oblige toute société cotée à faire certifier leurs comptes par un cabinet agréé au risque d'être radié de la bourse américaine dès 2024. Les 5 groupes figurent parmi les entreprises mises en demeure par l'autorité américaine de régulation des marchés de se conformer à ses obligations comptables.
Merci Nanite. Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Rien que du football ce matin et début réussi pour le Real Madrid en championnat.
Premier match de la saison de Liga pour le champion en titre et première victoire de 2-1 sur le terrain d'Almeria. Belle entame donc pour les coéquipiers de Karim Benzema, vainqueur 4 jours plus tôt de la Supercoupe d'Europe. Début timide en revanche pour le FC Barcelone accroché à domicile par le Rayo Vallecano 0-0. L'Atlético Madrid joue à Retafe en clôture de cette première journée.
Reprise de la saison également en Italie avec la première journée de la Serie A.
Tout à fait. Et belle entame du champion, le Milan AC, vainqueur 4-2 d'Udinese. Son dauphin, l'Inter de Milan, s'est fait peur chez le premier Lecce, mais a arraché la victoire 2-1 in extremis dans le temps additionnel. Victoire en déplacement aussi de l'AS Roma 1-0 sur le terrain de Salernitana. La Juventus de Turin fera face ce lundi à Sassuolo.
Au Bénin, le championnat reprend le 24 septembre prochain.
C'est ce qu'a décidé la fédération à l'issue de son assemblée générale ordinaire tenue le mois dernier à Ndali au nord du pays. Le championnat reprend donc dans 6 semaines avec la même formule qui verra la participation de 36 clubs repartis en 4 groupes. La succession de Coton FC de Ouidah est lancée avec d'abord la première phase qui verra 4 équipes qualifiées dans chacune des 4 zones. Au total, 12 clubs joueront les play-offs pour le titre final.
Le championnat camerounais, de son côté, reprend le 15 octobre prochain.
Oui, 3 mois après le 17e sac de Coton Sport de Garoua. Cette fois, 22 clubs contre 25 la saison écoulée seront sur la ligne de départ, selon la FECA Foot qui maintient la formule du championnat en 2 poules. L'instance va subventionner chaque équipe à hauteur de 48 millions de francs CFA et le champion de cette saison 2022-2023 empochera entre 50 et 100 millions de francs CFA. Notons la promesse d'une somme de 5 millions de francs CFA du président de la fédération Samuel Eto'o à chaque club qui aura une équipe des moins de 15 et de 17 ans.
Football toujours avec les éliminatoires pour la CAN des moins de 23 ans qui auront lieu au Maroc. La CAF a dévoilé la date du tirage au sort.
Exactement Idrissa, c'est à travers un communiqué que l'instance panafricaine l'a annoncé et ce sera le 18 août prochain. Cette CAN prévue en juin 2023 au Maroc servira de qualification pour les Jeux Olympiques d'été en 2024 à Paris. 38 équipes africaines joueront les qualifications en vue de décrocher 7 tickets pour ce tour final.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, le FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, dont la dissolution a été annoncée par le gouvernement, n'entend pas abdiquer. Le mouvement d'opposition Fer de Lance des contestations contre le changement de constitution s'oppose à la junte depuis plusieurs mois et réclame à coups de manifestation la mise en place d'un cadre du dialogue inclusif en vue de l'obtention d'une durée consensuelle de la transition. Réaction à Conakry au micro de notre correspondant Zakaria Camara.
Le mouvement est accusé d'organiser des actions violentes sur la voie publique au cours de manifestations interdites. Selon le gouvernement guinéen, ces actions mettent en péril l'unité nationale. Mais pour ce citoyen rencontré dans la banlieue de Conakry, une décision ne peut dissoudre ce qu'il appelle état d'esprit.
Le FNDC, c'est un état d'esprit. La population adhère à cette idée. C'est tout un peuple, quoi. Parce que la majorité de la jeunesse soutient FNDC. Et la population adhère toujours à cette organisation. La dissolution n'est pas la solution.
Solution ou pas, pour Mamadou Montes Diakité, consultant juridique, le ministre guinéen de l'administration du territoire peut bien dissoudre toute association qui agit contre l'ordre public.
L'article 34 de la loi L03 qui gouverne les associations et les ONG permet au ministre de l'administration de pouvoir dissoudre une association qui agit en violation de la loi, qui incite à la violence, qui rentre dans des activités qui vont contre l'ordre public. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le FNDC, le comportement du FNDC rentre dans ces cadres. C'est l'appréciation du ministre. Si ce n'est pas celle des membres du FNDC, je pense qu'ils doivent porter un recours.
La dissolution du FNDC pourrait amener les partis politiques à prendre l'initiative des manifestations de rue, estime le politologue Kabiné Fofana.
Le fait de dissoudre le FNDC va donc amener les partis politiques qui sont eux légalement constitués et reconnus de ce fait de reprendre dorénavant le flambeau, donc de ne plus se planquer derrière le FNDC pour appeler à manifester. Les partis politiques vont devoir maintenant eux-mêmes, si toutefois ils restent dans la dynamique du FNDC, dans les revendications du FNDC eux-mêmes, et appeler à manifester puisque le FNDC, du point de vue légal, n'existe plus.
Le 28 juillet dernier, le FNDC a appelé à des manifestations de rue. Des violences ont été signalées dans certains quartiers de la capitale. 5 personnes ont été tuées. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Au Tchad, un conflit intercommunautaire meurtrier a opposé pendant 3 jours la semaine dernière les habitants de villages situés dans les départements de la Kabia et du lac Léré, province du Mayo-Kébi-Est, dans le sud du pays. Le rapport de force entre les deux belligérants est disproportionné et le bilan est lourd du côté des autochtones. Une 40aine de morts et plusieurs villages ont été incendiés. André Kodmadjingar, notre correspondant à N'Djamena, fait le point.
C'est la gestion des terres cultivables qui serait à l'origine de ce conflit entre les deux communautés. Des sources sur place informent aussi que dans la nuit du 7 au 8 août, les éleveurs nomades sur leur chemin de retour ont fait des tirs de sommation dans le village Léo, département de la Kabia. Pris de panique, les braves valides ont vidé le village et les éleveurs en ont profité pour brûler les cases et leurs troupeaux de bœufs en dévastant le champ des cultivateurs. Une bagarre s'en est suivie et les éleveurs ont tiré à balles réelles sur la population, comme en témoigne un autochtone.
Les parents font que retrouver les corps là, en brousse, donc les nombres là, fait qu'augmenter. Presque c'est par balle, si c'est par flèche là, les parents là peuvent résister. Sinon, les villages brûlés là, les tous, c'est à peu près 8 villages comme ça. Dans le département de Monglis, c'est 5 villages. Le reste là, c'est dans le département de la Kabia aussi. Les champs détruits là, c'est pas compté.
Un habitant joint dans un autre village tente de donner un bilan provisoire.
Le nombre de morts dans le canton de Léo, c'était 23 personnes. Et dans le canton de Olongané, c'était 22 aussi. Le nombre de morts, il y a 45.
Les autorités locales ne confirment ni le bilan, ni l'origine de ces affrontements.
Vous savez qu'il y a des corps qui ne sont pas encore retrouvés. Nous sommes en train de nous atterrir pour y parvenir. Mais je ne veux pas trop m'amuser sur les chiffres, parce que je n'ai aucunement l'intention de continuer à jeter de l'huile sur le feu. C'est des événements qui sont extrêmement malheureux. Nous sommes en train de déployer tous les efforts nécessaires pour que la paix revienne dans ce département-là.
Mahamat Zen Aladji Yaya, gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est, l'union des jeunes leaders de cette localité résidant à Djamena, accuse le gouverneur d'être partisan dans cette affaire et exige son départ immédiat. Balam Souma Tchangourouwa est le président de la dite organisation.
Nous, jeunes leaders du canton Lou, mettons en garde le gouverneur qui a pris une position partisane à travers sa sortie diffamatoire, accusant nos parents des voleurs, des bétails, des responsables de tout ce qui adviendra. Exigeons le départ immédiat du gouverneur, le préfet, le sous-préfet et le commandant de la compagnie de la gendarmerie, tous défaillants dans la province.
Le gouverneur mis en cause affirme à VOA Afrique que c'est la porosité de nos frontières qui fait que les armes de guerre se retrouvent entre la main des individus. Il invite les jeunes qui demandent son départ à la retenue.
Est-ce que ce sont ces associations qui m'ont mené à ce poste? Parfois, ce sont malheureusement ces genres d'organisations-là qui ont véhiculé les messages incendiaires, qui ont contribué à l'avènement de cette situation-là. C'est dommage, c'est regrettable.
Les défenseurs des droits de l'homme estiment qu'il y a eu plus de morts durant cette période de transition, alors que le Tchad se prépare au dialogue national dans moins d'une semaine.
Tous ces gens à qui dans les villages sont brûlés, ils ont des représentants. Et vous voulez que ces représentants-là viennent au dialogue avec ce cas de conscience? Je ne pense pas que ça soit possible.
Mahamat Nouri Bédou, président de la Commission nationale des droits de l'homme. Selon les autorités locales, le calme est revenu et que la justice doit faire son travail pour situer les responsabilités. André Kordoma Djingar Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Gabon, l'activité économique du Cap Estérias est en danger. C'est un village au nord de Libreville qui vit essentiellement des activités de pêche. Mais d'année en année, ses ressources se raréfient. En cause, la pression des grands projets immobiliers qui détruisent les zones de reproduction des crustacés tels que les crabes. Notre correspondant Ismaël Obiangze a suivi une partie de chasse des jeunes piégeurs du Cap Estérias. Son reportage.
Une partie de chasse au crabe commence par la maîtrise du montage des pièges, encore appelés les casiers. Derrière les cases de ce petit village dit Cap Estérias au nord de Libreville, le jeune Yann Penda, 17 ans, fabrique les casiers à partir d'une boîte de conserve vide et des ficelles rattachées à une planche.
Pendant les pannes, tu mets à l'intérieur de la caisse, il y a un petit trou en bas de la boîte, tu prends, tu positionnes. Le crabe, comme il vient, il mange et ça se ferme automatiquement à l'intérieur. Et il n'y a pas que la caisse là, on a beaucoup de pièges.
Dans la famille de Yann, on est pêcheur de génération en génération. Mais aujourd'hui, leur activité est menacée par la déforestation des palétuviers. Sous les échasses de cet écosystème en partie détruit, ils nous amènent relever les pièges à crabes posés la veille.
Quand avant quand même, ça rapportait. Et à la fin du mois comme ça, j'ai vu à mon oncle, à la fin du mois, compter 300 000. J'ai demandé à l'oncle. Donc, ok, tonton, tu as fait qu'il y a des bonnes. Ah, petit, c'est les crabes que tu vois là.
Or, la pression immobilière pesant sur la reproduction des crustacés, les crabes et les couteaux de mer du Cap Estérias disparaissent progressivement. Dans les ménages comme celui de Charlotte Kokoji, les crabes farcis sont devenus une denrée rare.
Avant, on trouvait ça facilement, maintenant c'est difficile. Parce qu'on trouve ça maintenant vers Loulou là-bas, loin de l'Aroc, avant, on trouvait ça à côté.
Selon les scientifiques, un large éventail de poissons, de mollusques et de crustacés dépend des forêts côtières. Un constat alarmant, aujourd'hui amplifié par le plaidoyer des défenseurs de l'environnement, Paul Copedina Itanguino, responsable d'une ONG locale.
Nous menons des plaidoyers auprès du gouvernement et des partenaires internationaux afin que notre cause soit entendue, à savoir la prise de mesures qui conservent le littoral du Cap Estérias, qui est peuplé de mangroves, et si possible, faire en sorte que ces grands espaces soient transformés en zones de réserve.
Pour les autorités du pays, les spéculateurs fonciers à l'origine de ces désastres écologiques sont exposés aux affres de la loi. Jean-Hervé Vébé, directeur général des écosystèmes aquatiques.
Les auteurs de destruction de mangroves, vont être traduits devant les tribunaux. Ça, il faut s'y attendre.
En attendant l'entrée en vigueur des sanctions gouvernementales, l'économie locale du Cap Esterias se meurt à petit feu. Ismaël Obionze de retour du Cap Esterias pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Après plus d'un siècle au service du système sanitaire sénégalais et ouest-africain, l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar ferme ses portes. Une décision prise par l'État du Sénégal afin de réhabiliter la structure jugée vétuste et d'en faire un hub médical en Afrique de l'Ouest. Les intentions sont bonnes, mais la méthode utilisée est décriée, nous dit notre correspondant à Dakar, Sédina Abagué.
Dans un remue-ménage indescriptible, des policiers viennent en renfort face aux syndicalistes et personnels de santé qui s'offusquent de la précipitation avec laquelle le redéploiement des malades est effectué à l'hôpital Aristide Le Dantec. Elhaj Abdoulaye John, responsable du syndicat démocratique des acteurs de la santé.
Ils sont venus à l'urologie pour démonter les matériels. Ils n'ont pas le droit de fermer le bloc central. Les malades doivent être opérés. Il y avait des malades programmés qui doivent être opérés. Donc, ils n'ont aucun droit de fermer le bloc central. Depuis hier, à 19h, ils ont coupé l'eau du robinet. Vous croyez que ça, c'est normal? Le sort du personnel n'est pas réglé. Et maintenant, ils veulent sortir les matériels sans autorisation. Nous ne l'accepterons pas.
La colère des membres du personnel contraste avec le dépit des patients et de leurs accompagnants venus des différentes localités du pays. Certains d'entre eux, qui se plaignent déjà d'une prise en charge défectueuse, sont aujourd'hui obligés de s'adapter à la nouvelle donne. Yassine Diop accompagne une malade atteinte de cancer du sein.
Nous sommes originaires de Baba Garage, à environ 150 km de Dakar. Et on a amené un malade. Depuis 3 mois, on fait des va-et-vient sans pour autant qu'un médecin spécialiste se penche réellement sur son cas. C'est une situation désespérante car elle souffre d'un cancer du sein et malgré les innombrables examens effectués, elle ne bénéficie pas encore de la prise en charge attendue. Il est donc évident que ce genre de malade ne peut être déplacé dans ces conditions. Nous sommes obligés de l'amener à une clinique. C'est cher, mais vu ce qu'on dépense en frais médicaux, c'est mieux.
Il est obligé de faire une malade clinique.
Dans un communiqué, le ministère de la Santé informe qu'un schéma de redéploiement des services et du personnel a été défini. Cela pour assurer la continuité des services par une prise en charge correcte des patients, ainsi qu'à la poursuite de l'enseignement, de l'encadrement des étudiants et des projets de recherche. Le ministère précise également que les services déménagent avec leur personnel pour renforcer l'activité des structures d'accueil. Mais malgré les assurances des autorités, les remous autour de la fermeture et de la reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec continue de plus belle. Sédina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless. East Africa.
It's 7 o'clock, yeah, it's 6:30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're feeling. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now?
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.